Merci d'écouter RFI, il est 17h en temps universel, 1h à Singapour.
Pierre Boudias.
Et à la une de l'actualité, l'ONU appelle Israël à se retirer immédiatement du sud de la Syrie. Incursion israélienne depuis ce matin au nom de la protection de la minorité druze. Un soutien rejeté par une partie de cette communauté, vous l'entendrez. Le sud du Texas va-t-il devenir la rampe de lancement de la conquête des étoiles? C'est en tout cas le souhait d'Elon Musk qui veut transformer le site Starbase en véritable ville. Un projet pharaonique entre les mains de quelques 300 électeurs américains. Élection sans grand suspense à Singapour. Au pouvoir depuis 75 ans, le Parti d'Action Populaire devrait facilement remporter les législatives aujourd'hui. La faute à un système électoral taillé à sa mesure. Et puis le prince Harry sort du silence. Relation avec Charles III, rapport au Royaume-Uni et protection policière. L'ancien héritier de la couronne britannique est revenu sur de nombreux sujets. Une main tendue que les citoyens de Londres ne sont pas forcément prêts à saisir. L'armée israélienne a donc pénétré dans le sud de la Syrie ce matin, déploiement autour de plusieurs localités druzes en défense de cette minorité victime de violences communautaires en début de semaine. C'est en tout cas ce qu'explique l'armée israélienne. Cette incursion terrestre s'est accompagnée de nouvelles frappes sur le territoire de Damas la nuit dernière. Mais la présence des troupes israéliennes ne rassure pas forcément les membres de la minorité chiite. Certains même n'en veulent pas. C'est le cas de Fadila Abd al-Baki, druze, qui habite dans la ville de Souaïda.
We are against Israeli troops.
Nous sommes contre la présence des troupes israéliennes. Israël est notre ennemi, ce n'est pas un allié. Ils occupent le plateau du Golan alors que ça appartient à la Syrie. Ce n'est pas un allié. Ils n'accordent pas d'intérêt aux Druzes. Ils s'intéressent uniquement à sa propre défense parce qu'Israël a peur du président Ahmed al-Sharaa et de son passé avec Daesh. Israël suit toujours ses intérêts ou ses projets. Ils ont un projet. Israël prétend nous aider, nous les Druzes, mais c'est pour ses propres intérêts. Ils veulent un grand Israël. Un grand Israël qui irait de l'Euphrate jusqu'au Nil. Ils veulent réaliser leur rêve, s'étendre dans la région.
Un propos recueilli par Vincent Danilo et les Nations Unies appellent Israël à cesser immédiatement ses attaques et à se retirer du territoire syrien. Tension toujours vive également entre Inde et Pakistan. Islamabad a annoncé aujourd'hui la réussite d'un test de missile moyenne portée sol-sol. Test alors que l'armée pakistanaise dit s'attendre à une frappe imminente de la part de New Delhi. Le ministère du commerce indien annonce lui l'interdiction de l'importation de tous les produits en provenance de son voisin. Le gouvernement de Narendra Modi accuse toujours le Pakistan de soutenir les terroristes responsables de la mort de 26 personnes dans le Cachemire mardi dernier. Des accusations rejetées par le Pakistan. RFI, il est midi 3 à Austin, le Texas, qui verra peut-être bientôt une ville futuriste poussée au bord de sa côte, celle voulue par Elon Musk qui entend transformer le site des lancements de fusées SpaceX en une cité à part entière. Dernière étape aujourd'hui puisque les habitants de Starbase votent pour décider ou non d'adhérer au projet. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors cela va donner davantage de droits à cette collectivité.
Oui, ils sont un peu moins de 300 personnes à voter, essentiellement des employés de SpaceX, dont leur patron, Elon Musk, et les membres adultes de leur famille. Autant dire que le résultat fait assez peu de doute. C'est un petit espace situé entre le Rio Grande, c'est-à-dire tout près du Mexique, une zone humide protégée et une plage dans cette région du sud du Texas. C'est l'état où Elon Musk a relocalisé la plupart de ses affaires. Un peu plus loin, au bord du golfe du Mexique, ou d'Amérique, selon l'appellation officielle aux États-Unis, il y a le pas de tir d'où décollent les fusées géantes Starship, actuellement en phase de test. Donald Trump y était venu peu après son élection en novembre. Historiquement, le lieu s'appelait Boca Chica. Désormais, c'est Starbase et ce sera le nom de la ville quand elle sera officiellement constituée. Cela va lui donner des droits supplémentaires et notamment celui de restreindre l'accès à la plage. Un mouvement d'opposants de la région s'est formé car cette plage est très appréciée des communautés environnantes, spécialement les communautés populaires. Les opposants dénoncent aussi les conséquences des lancements de fusées sur les nids des oiseaux qui nichent dans la zone humide à côté. Et la première fois que cet argument a été évoqué, Elon Musk a répondu qu'il se priverait d'omelette pendant toute une semaine.
Guillaume Nodin depuis Washington, merci. Les États-Unis qui espèrent approfondir leurs relations avec l'Australie. Ce sont les mots du secrétaire d'État Marco Rubio après la victoire des travaillistes aux législatives ce samedi. Le premier ministre australien Anthony Albanese va donc se maintenir en poste, une première depuis 25 ans. Les premières estimations annoncent également une possible majorité absolue au Parlement pour sa formation, lourde déroute des conservateurs dont le dirigeant Peter Dutton n'a pas été réélu dans sa circonscription. À Singapour aussi, les électeurs avaient rendez-vous dans les urnes ce samedi, élection législative qui semble promise au parti d'Action Populaire au pouvoir depuis 75 ans. Victoire assurée grâce notamment à un modèle électoral unique qui permet aux députés du parti au pouvoir de compter plusieurs élus par circonscription. Mais le règne ininterrompu du parti d'Action Populaire s'explique également par le contrôle des médias et les pressions judiciaires imposées aux formations d'opposition. Décryptage de Jean-Louis Margolin, il est historien spécialiste de Singapour.
On parle souvent de régime autoritaire dans le cas de Singapour. Le système contient une place pour l'opposition qui peut se présenter à toutes les élections, qui peut avoir des élus. Personne ne prétend que les urnes soient bourrées, que les élections ne soient pas libres, mais les entraves sont plutôt liées au fait que le parti au pouvoir n'hésite pas, si un candidat d'opposition dit quelque chose qui peut être considéré comme un mensonge ou une calomnie, n'hésite pas à le poursuivre devant les tribunaux et à le faire condamner à des amendes tellement élevées que bien souvent, ça le ruine. Le parti d'opposition en question est obligé de se déclarer en faillite. Disons que ça n'incite pas les gens de talent, les gens qui auraient réellement quelque chose à dire et à le dire bien, à se présenter en faveur de l'opposition. Donc, en quelque sorte, on a une opposition qui est formellement relativement libre, les élections sont formellement relativement libres, mais le contrôle des médias, mais la victimisation permanente des partis et des personnalités de l'opposition fait en sorte qu'en fait, le système politique est pratiquement verrouillé.
RFI, il est 19h06 ici à Paris, la France, où plus de 20 suspects âgés de 15 à 37 ans ont été mis en examen dans l'enquête sur les attaques contre des prisons et agents pénitentiaires. 19 sont incarcérés et 2 mineurs sont placés en centre éducatif fermé. Annonce faite ce matin par la procureure de Paris, Laure Becquio. L'enquête a révélé des personnes au profil très très différent. Elisa Robuchon.
Oui, les investigations ont d'abord mis en lumière deux catégories de profils, les instigateurs et les exécutants.
La plupart des exécutants sont des personnes jeunes, habitant à proximité des lieux de passage à l'acte. Deux d'entre eux sont mineurs, certains n'ont aucun casier judiciaire. Les personnes soupçonnées d'être les instigateurs et les relais avaient déjà entamé un parcours dans la grande criminalité.
Parmi eux, un suspect qui sort du lot.
Celui à qui paraît être imputable à ce stade la boucle Telegram, qui fait naître la revendication DDPF, âgé de 24 ans, est le seul qui prétend avoir des liens avec la DZ Mafia. Il est détenu provisoire pour des procédures criminelles et des lectures.
Des profils du haut et du bas du spectre donc, preuve de l'évolution de la criminalité organisée selon Laure Becquio.
On retrouve également le fait de recourir à des recrutements tarifés, à des prix bas, de jeunes acteurs, ce depuis la détention. Ces recrutements par les réseaux sociaux ne dissuadant pas ceux recrutés des actions les plus graves.
Des actions qu'elle a qualifiées, je cite, d'une violence extrême, décomplexée et préméditée.
Et puis lui est devenu l'ennemi public numéro un pour une partie des Britanniques. Le prince Harry, exilé aux États-Unis depuis 2020, est sorti du silence dans une longue interview à la BBC. Il y révèle qu'il ne parle plus avec son père, le roi Charles III, mais qu'il souhaiterait se réconcilier. Correspondance à Londres, Sarah Menaille.
L'échange de 30 minutes s'est tenu après le verdict final de la Cour de justice de Londres vendredi. Une cour qui a rejeté définitivement la demande du prince Harry de réévaluation du dispositif sécuritaire qui l'entoure. Un dispositif qu'il juge insuffisant depuis qu'il a quitté la famille royale. Il explique que c'est la raison pour laquelle il refuse de venir au Royaume-Uni avec son épouse et leurs enfants, Archie, bientôt 6 ans, et Lilibet, 4 ans.
Je ne vois pas comment je pourrais ramener ma femme et mes enfants au Royaume-Uni à ce stade.
Toujours dans cette interview accordée à la BBC, et alors que le roi Charles III est à 76 ans atteint d'un cancer, le prince Harry tend la main à sa famille.
J'aimerais vraiment me réconcilier avec ma famille. Ça ne sert plus à rien de continuer à se disputer. La vie est précieuse.
Mais à Londres, l'évocation d'une éventuelle réconciliation de la famille royale divise les Britanniques.
Je pense qu'il est trop tard. Il a démarré les hostilités avec son livre, puis leurs interviews. Je pense que c'est aller trop loin maintenant pour espérer une quelconque réconciliation.
Il a vécu tellement de choses sous les yeux du grand public alors qu'il était si jeune. Les médias, clairement, l'ont dans le viseur, mais la famille royale ne fait rien pour arranger les choses.
Il est certain que cette nouvelle interview du prince Harry n'a pas fini, ici, de faire couler beaucoup d'encre. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est presque 17h10 en temps universel, presque 19h10 ici à Paris. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.